sport
avec Virginie Fulpin.
Allez, c'est parti. Quatre invités autour de cette table pour Europe 1 Sport. Claire Arnoux de Bein Sport, bonsoir.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Jérôme Papin, bonsoir.
Bonsoir Virginie, je vous livre juste, parce qu'elle m'avait semblé importante, cette phrase d'Abraham Lincoln. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.
D'accord, c'est un bon conseil pour ce soir. Merci Jérôme. Grégory Schneider, bonsoir.
Bonsoir messieurs, dames. Et qu'est-ce que vous voulez que je sorte après ça?
C'est compliqué, hein, c'est compliqué.
Abraham Lincoln quand même.
C'est ça, moi aussi, j'ai essayé, je me suis dit vite, trouve un truc. Et
non,
puis,
non, bah c'est non, pas possible.
Voilà.
J'ai rien, ne me présente pas, j'ai rien.
Clément Pernat, co-auteur de La République du foot, bonsoir.
Bonsoir Virginie.
Alors, vous avez tous vu ce qui s'est passé dimanche lors du match entre l'équipe de France U18, les moins de 18 ans donc, et la Pologne lors d'un tournoi à Limoges. 4 cartons rouges pour les Bleus, des gestes d'humeur, un coup de tête. Le match n'est pas allé au bout parce qu'on ne peut pas jouer à 7. Et le sélectionneur français Bernard Diomède, prêt à ne plus appeler certains joueurs coupables de violence. Ça donne une mauvaise image de cette équipe de France. Mais on va d'abord revenir sur le contexte. Bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir.
Parce que d'après les infos du service des sports d'Europe 1, tout n'était pas franchement réuni pour que ça se passe bien non plus.
Non, alors déjà on va vous rappeler où c'était, qu'est-ce que c'était. C'était le 15e tournoi des moins de 18 ans de Limoges-Lafarge. C'était de mercredi à dimanche, il y avait 4 équipes, la France, l'Estonie, l'Écosse et la Pologne. La Pologne, il faut s'en souvenir, qui avait été battue 6-1 à l'Euro en finale par l'équipe de France l'année dernière. Et il y avait donc du coup des prémices de problèmes à venir parce qu'ils n'avaient pas digéré visiblement ce score et cette rencontre. Le match entre la France et la Pologne, c'est le dernier match de cette compétition. En tout cas, c'est celui qui va décider du vainqueur de ce tournoi. Et la Pologne va l'emporter. Donc vous l'avez dit avec ces 4 cartons rouges pour l'équipe de France. Tous en deuxième période, on va le préciser. Il y a d'abord 2 cartons rouges en début de deuxième période. Ilyes Housni, le joueur du Paris Saint-Germain, et Jean-Noël Bellossian, le joueur de Rennes. Il y a 2 partout à 25 minutes de la fin. La Pologne, à 11 contre 9, prend l'avantage à la 70e. Et c'est là ensuite que ça dégénère. Il y a encore 2 cartons rouges. Yonis Gomis, le joueur du Havre, et Darnell Bill, le joueur de Saint-Etienne, qui est l'auteur de ce tacle par derrière et de ce coup de tête derrière qui déclenche la bagarre générale. On va juste rappeler une chose, c'est que sur les 4 cartons rouges, il n'y en a qu'un seul qui est un carton rouge direct. Les 3 autres, ce sont à chaque fois une série de 2 cartons jaunes. Donc bagarre générale, coup de tête et fin du match dans ce espèce de chaos. Rappelez aussi que l'arbitre de cette rencontre était un jeune arbitre, un arbitre de 21 ans qui n'avait pas forcément l'expérience de ce rendez-vous plutôt haché, fermé et très tendu. Donc peut-être que là aussi il y a un petit problème en matière d'organisation et de mise en place et de choix d'arbitre. La Fédération française qu'on a interrogée et qu'on a appelée nous dit que évidemment c'est très problématique. Il y a eu une réunion de crise ce matin avec les différentes parties prenantes de cette rencontre, mais veut rappeler que ce n'est que l'histoire d'un match, entre guillemets, qu'il y a des sanctions qui seront prises en interne, évidemment, que certains joueurs, comme l'a dit Bernard Diomède, ne seront pas sélectionnés à l'avenir, seront bannis de cette équipe de France, notamment Darnell Bill, qui fait aussi l'objet de sanctions au sein de son club, sanctions pédagogiques, a dit la Saint-Etienne, et que lui-même a présenté ses excuses dernièrement avec son club de Saint-Etienne. Selon nos informations, c'est là où c'est un peu plus problématique et c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est que le comportement des joueurs polonais, est assez problématique. Dès le mercredi, lors des différentes phases de rencontres, on peut se croiser au bord des terrains, il y aurait des comportements suspects de la part des joueurs polonais, des provocations, des insultes. Et on nous parle de provocations, d'insultes aussi à caractère raciste, des cris de singe notamment. Provocations et insultes qui se poursuivent évidemment pendant le match, avec des joueurs polonais aussi qui vont faire des insultes en français et qui vont singer parfois aussi dans les gestes. Visiblement, sur les images du match, puisque la rencontre était diffusée par France 3 Région, on peut entendre aussi par moment Bernard Diomède interpeller le délégué de la rencontre, qui, en lui demandant d'arrêter le match, d'intervenir pour essayer de faire cesser ces crises, ce qui n'entraîne aucune réaction de la part du délégué. Et il faut savoir aussi, pour terminer dans cette histoire, c'est qu'après le match, parce qu'évidemment le match est terminé, il a fallu que tout le monde rentre au vestiaire, après la rencontre, là où ça pose aussi problème en termes d'organisation, visiblement les deux bus, ceux de l'équipe de France et ceux de l'équipe de Pologne, ont été mis côte à côte. Ce qui n'est pas très intelligent.
Qui n'est pas le mieux pour...
Et visiblement, les provocations des joueurs polonais auraient continué après la rencontre, avec à nouveau... des mimes de gestes de singe qui auraient été effectués et selon nos informations, selon les personnes qui nous ont qui ont voulu témoigner sans qu'on puisse divulguer leur identité, eh bien il y aurait le plus de témoins, c'était au moment des cars et des bus, où là où il y aurait eu le plus de témoins visuels de ces insultes à caractère raciste.
Donc ça c'était après le match,
voilà.
C'est pas ça. Donc c'est pas, on
avant,
peut pas justifier le comportement
pendant,
des joueurs français
et
par ce qui s'est passé après.
Voilà.
Exactement.
Il y a eu avant, pendant, après, selon les informations qu'on avait pu recueillir.
Grégory Schneider, je vous vois faire un peu la mousse.
C'est-à-dire non,
que,
non,
évidemment,
il y a
beaucoup de choses, parce qu'il y a,
non,
y a
alors,
cet
écoutez,
amateurisme
bon,
du tournoi qui ne peut pas justifier
non, ça,
le comportement
on,
des joueurs français, de toute façon.
Absolument rien. C'est des gens qui sont en centre de formation, parfois en préfo. Donc en préfo, c'est 11 ans, 10 ans. Donc c'est un comportement qui est de toute façon inadmissible. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, on parle effectivement de comportement limite des Polonais. Donc ça, ce que je veux dire, c'est un second temps. C'est qui va gagner la bataille de communication derrière. Est-ce qu'on va réussir à le justifier d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être grand clair pour penser que certains dans le camp français ont quand même intérêt à promouvoir la thèse de la provocation pour limiter leur responsabilité. Moi, il me manque une image. Si vous voulez, tout le monde a des smartphones. Si on me dit ils sont ensuite allés dans le car, enfin, ils se sont rendus dans le car où, puisque d'après ce que dit Cédric, les Français témoignent du fait qu'ils mimaient des gestes de singe, il suffit d'une image pour gagner la bataille de communication derrière. Une image. Vous la mettez sur les réseaux, c'est gagné. Et moi, j'ai la preuve, je le vois, je suis sensible à ça, Dieu sait, comme on l'est tous. Mais tant que j'ai pas cette image, très franchement, je suis pas à l'aise. Ça sent la défausse et c'est quand même gravissime d'accuser des gens de faire ça. Alors, un, il n'y a pas d'image, et deux, ils parlent off. Moi, très franchement, journalistiquement, ça me pose souci. Et trois, ils ont grand intérêt à diminuer leur propre responsabilité. Cette image, ils ont tous les joueurs ont des smartphones. Vous ne pouvez pas croiser un joueur dans un couloir sans qu'il se balade
avec lui, ça c'est sûr.
Qu'il n'a pas la main. Je veux dire, si vous voyez ça, faut le filmer. C'est fondamental. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas d'image. Dans ces cas-là, faudrait les montrer. Les réseaux sociaux existent. J'aimerais vraiment les voir à titre personnel.
Cédric Chasseur.
Oui, juste pour répondre à Grégory sur le fait que personne ne souhaite témoigner, c'est vrai qu'on a aussi ce retour, et on le voit, hein, puisque personne n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet-là, et pourtant, Dieu sait qu'on a essayé d'avoir des interlocuteurs, d'essayer d'avoir des interviews sur ce sujet-là. Le souci, c'est que même à l'intérieur du groupe, que ça soit les joueurs, dans le staff, dans l'entourage, personne ne veut témoigner.
Mais
ce qui pose quand même un petit problème.
Voilà. Non mais d'autant qu'ils témoignent off, quand même. Donc ils le font. Donc ils le font sans le faire. Vous voyez, ça veut dire que tous les Polonais étaient raccord par rapport à ces attitudes. Mais un groupe polonais, c'est quoi ? Il devait y avoir une vingtaine de joueurs. Ça veut dire que sur les 20, il n'y avait pas d'autocensure entre eux, ou il y avait une acceptabilité. Voilà.
C'est là où notre problème...
On va faire avec le micro,
voilà,
Cédric, ça va être très bien.
Je prends notre micro,
voilà,
je ne sais pas le mien à couper, peut-être que, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un a voulu me couper la fixe.
Est-ce que c'est pas les Polonais,
mais c'est ça que je veux dire, c'est que évidemment, je parle de joueurs polonais, je ne veux pas citer tout le groupe polonais, je prends évidemment beaucoup de pincettes en le disant, peut-être qu'il s'agit d'un certain nombre, nous n'avons pas pu quantifier cette information-là. On ne peut pas vous dire aujourd'hui s'il s'agit de 2, 3, 5, 10 joueurs polonais aujourd'hui. Les infos qu'on nous a fait remonter, c'est qu'il y a en effet des joueurs qui ont eu des provocations ou qui ont eu des comportements
caractéristiques. Avant le match ?
Parce
que si c'est avant le match, je ne comprends pas alors pourquoi les instances de l'équipe de France ne sont pas allées en parler et déjà de dire nous, on n'a pas envie de jouer ce match contre des joueurs qui ont provoqué, qui ont été insultants, racistes. Enfin, c'est deux problèmes, quoi. Soit il y a le du racisme, et dans ce cas-là, on ne fait pas le match, ou on gère le problème avant, ou même si c'est pendant le match, on arrête le match, et puis les joueurs français rentrent à la mi-temps, et puis il n'y a pas les autres cartons rouges, il n'y a pas le coup de boule, il n'y a rien du tout. Et il y a l'éducation des joueurs, comment on réagit quand on se sent peut-être en diminué et qu'on n'arrive pas à gagner un match, et que la nervosité prend le pas, et qu'on devient à ce moment-là agressif.
Alors, on va prendre de toute façon, hein, c'est ce qu'on a fait, on a pris toutes les précautions d'usage là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle justement de la réaction des Français, même si effectivement c'est pas la même chose si c'est du racisme ou pas du racisme, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a quand même un moment où ces joueurs-là, les U18, certes ils sont très jeunes, mais je veux dire, c'est pas des amateurs, ils jouent tous dans des clubs pro, ils sont passés par les centres de formation, et ça veut dire que dans le système de formation à la française, est-ce qu'on n'a pas un petit souci qu'on n'insiste pas assez sur l'éducation, sur se maîtriser, sur comment se comporter sur un terrain et en dehors, Jérôme Papin ?
Alors, de ce que je sais, puisque j'ai un peu travaillé avant de venir quand même, la fédération, alors Dieu sait si actuellement elle est sous les feux des projecteurs, mais a depuis 2015 mis en place énormément de choses auprès des clubs de formation, auprès de la préformation, auprès des clubs tout court, pour justement accompagner, encadrer et essayer de se prémunir du plus possible, en tous les cas, de ce type de dérive. Après, le football, le sport en particulier, ne peut pas déroger à la règle d'une société qui est que c'est aussi au cercle familial d'être le fruit essentiel de l'éducation. D'accord. Ensuite,
Les centres de formation ne vont pas remplacer la famille. Hein, on est bien d'accord.
Il y a un moment donné où c'est un peu compliqué. C'est comme à l'école, quoi. À l'école, ce qu'on vous demande, c'est d'instruire au sens noble du terme. L'éducation doit venir depuis la maison. Donc, la fédération là-dessus a mis en place depuis 2015 énormément de choses et de points. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est cette dérive, mais finalement inquiétante, et elle n'est que le reflet de ce que l'on voit plus haut, parce que ces gamins, d'accord, qui ont moins de 18 ans, eh bien, sont en reflet de ce qui se passe en haut, je parle en haut, chez les professionnels, les attitudes. Quand je revois le match de Metz-Guingamp en Ligue 2, oui, il y a 15 jours, avec 6 cartons rouges, je me dis que là, on est avec des professionnels. Donc nécessairement, si quand en haut de la pyramide, vous avez des attitudes qui sont négatives, quand vous allez descendre en bas, bah, c'est sûr que... Et on parle là de joueurs qui sont en centre de formation, voire pour certains, celui de Saint-Etienne qui a déjà joué en Ligue 2, qui a 17 ans. Je ne vous parle même pas si vous descendez encore plus bas.
Il
n'est
pas tout seul, il y en a d'autres dans ces équipes.
Si vous plus bas le samedi ou le dimanche matin, c'est juste un enfer.
Cédric Chasseur.
Oui, juste pour vous remettre un petit peu encore de contexte supplémentaire, la déclaration d'un des joueurs polonais après le match, comme ça on a aussi la vision polonaise de cette affaire, qui dit à un média local, après les deux cartons rouges et le but de la Pologne qui fait 2-3, le massacre a commencé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les adversaires se sont comportés comme s'ils ne venaient pas d'un pays civilisé. Personnellement, je suis très heureux et je retire une grande satisfaction de cette victoire. Donc vous voyez que D'un côté, on nous parle en effet de...
Ce qui n'est pas très malin non plus comme communication.
Visiblement, on vient aussi critiquer le comportement des joueurs français.
Clément Pernia, pardon.
Pour moi, il y a deux soucis pour rejoindre ce que Arnaud dit. Il y a un souci structurel. C'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunes garçons qui quittent leur famille à 12, 13, 14 ans, qui n'ont pas une éducation familiale terminée, aboutie. On a affaire à des jeunes hommes qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Donc pareil, il y a une forme de... Sociologiquement, il y a une étape qui n'a pas été réalisée. Il y a un problème aussi structurel. C'est-à-dire que dans les jeunes clubs, dans les clubs au jeune âge, on privilégie beaucoup en France la performance. C'est-à-dire que les clubs ont des subventions, on leur attribue des dons supérieurs s'ils gagnent à 12, 13, 14 ans. Donc on fait jouer les plus forts, les plus physiques, etc. Et de cette obsession du résultat, pâtit une forme d'éducation, des principes de jeu, des principes de vie collective qui se ressentent forcément plus tard à 17, 18 ans. Et puis, je pense aussi qu'il y a un souci générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gamins à 12, 13 ans sont contactés par des agents, par des intermédiaires, qu'on leur promet un tel salaire à 17 ans, un tel club à 16 ans, des commissions pour la famille, pour les parents, pour le grand frère.
Ce qui est interdit par la loi. Hein.
Voilà, en plus, tout ça. Non, mais tout ça,
ce qui fait tourner la tête de tout le monde.
Tout ça, on le sait. Ces joueurs-là, à 14 ans, aujourd'hui, ils ont des valeurs marchandes.
Mais c'est
surtout. Ils valent des centaines de milliers. Donc tout ça, en fait, j'ajoute à cela la génération réseaux sociaux, ultra connectés. Il n'y a plus ce plaisir de jouer comme peut-être à l'époque. Mais voilà, on joue plus par intérêt, pour l'argent, pour briller, pour être à la mode, pour, voilà, par rapport aux copains, aux réseaux sociaux. Tous ces phénomènes conjugués font que les comportements à 17-18 ans, bah aujourd'hui, peuvent se retrouver ainsi sur des terrains de football, et c'est déplorable.
Moi, je sais que j'avais discuté notamment avec des éducateurs qui me disaient, mais en fait, on veut tellement gagner que, par exemple, en centre de formation, même si l'école, c'est pas terrible, alors que normalement, on doit avoir des résultats, on pardonne tout à ceux qui sont forts parce qu'on doit gagner,
oui,
on
mais
veut
c'est
gagner.
La, c'est, la grand, Grégory Schneider. C'est la grandeur et c'est la beauté suprême du foot et du sport. Ça, vous êtes là parce que vous êtes fort. Vous vous invitez à table parce que vous êtes fort.
Mais ça ne donne pas tous les droits.
Non, ça ne donne pas tous les droits. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tout le monde. Vous avez des gens déstructurés, vous avez des gens qui auraient du mal en entreprise. Vous avez le sport laisse une place à ça. Moi, j'ai toujours trouvé que...
Non, mais ça, c'est important, bien sûr.
Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours trouvé que la plus... Pour moi, la beauté suprême du foot, c'est d'avoir invité quelqu'un comme Ribéry à table. Parce qu'il a une éducation compliquée, parce que même ses parents ne s'occupaient pas de lui, parce que c'était... Mais il a eu sa place à table. Il a eu sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Il n'y a que le foot pour faire ça. Donc c'est ambigu. Vous avez un joueur, bon, tout le monde le sait, Liwayi, qui a été en grande, grande difficulté quand il était au centre de formation de Guingamp. Il y a eu des comportements qui étaient limites, il y a eu des... Mais est-ce que ce n'est pas formidable de voir ce joueur se exploser à Montpellier et devenir l'un des plus grands espoirs de Ligue 1 alors qu'il a ces défauts-là à la base, vous voyez ? Le foot invite tout le monde. Il invite un mec comme Hugo Lloris, dont la mère était dirigée une succursale bancaire à Monaco, et il invite Eli Wahi. Et c'est-à-dire, quelque part, c'est cette ambiguïté-là qui est belle et qui le justifie. Après, on peut leur donner le son de main, mais justement, le foot n'est pas moral. Le foot, il n'est pas... Il y a tout le monde.
Mais
donc, il faut l'accepter
moral...
quelque part en tant que tel. Enfin, je sais bien que c'est compliqué, mais moi, quelque part, ça fait... Ça invite des gens, effectivement, qui peuvent poser problème. J'entends ça. Mais c'est justement ça, sa force.
Mais pour pallier ce problème, en fait, il suffit de valoriser aussi la formation d'éducateurs et la multiplication des éducateurs. Moi, je pense que ça manque d'éducateurs et de leur donner les moyens aussi, parce que bon, être bénévole, c'est sympa, mais donné...
C'est un boulot,
C'est un gros boulot d'éducation. Jérôme, tu parlais de famille. Moi, je pense que la famille a un rôle primordial, sauf que quand le gamin, il est toute la journée en train de jouer au foot, aller à l'école, et puis le soir, et continue de jouer au foot, il ne voit pas trop sa famille. Et à ce moment-là, je pense que c'est l'éducation qui doit, et les éducateurs qui doivent aussi faire que ces jeunes-là qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils apprennent à vivre ensemble et à devenir des hommes, parce qu'à 17 ans, on est quasiment un homme, pas encore tout à fait, mais en tout cas, on s'apprête à l'être prochainement. Et c'est ça qui est aussi important, mais ce n'est pas un problème récent. Grégory parle de Ribéry. Je sais qu'en France, on voue un amour inconditionnel à Zinedine Zidane, moi la première. Zizou, il en a mis un coup de boule, parce qu'il a pris une insulte.
Ouais.
C'est pas le seul carton rouge qu'il a pris dans sa carrière. Des énervements de joueurs, de très grands joueurs, il y en a eu. Il y a beaucoup de joueurs, effectivement, Hugo Lloris, il a eu cette chance-là d'avoir une famille comme ça derrière lui. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui viennent de quartier, et dans le quartier, ça s'insulte, c'est de la violence.
Et on peut pas,
il faut recadrer tout ça, en fait.
Et par rapport à ce qu'elle dit, je pense même qu'il n'est pas interdit de penser que quelque part le foot leur fait plus de bien que de mal.
Oui.
Parce qu'ils tombent sur quand même, c'est quand même encadré, c'est quand même. Alors effectivement, on arrive quand même à des choses comme ça en bout de ligne, à ce qui arrive en
U18. Oui, avec des limites mais, quand
oui,
même.
Non, mais bien entendu.
Ça.
Mais est-ce que ça aurait pas été pire si le gamin, je veux dire, on est quand même sur un. Vous savez, c'est ambigu. On peut toujours le voir. Il me semble de deux manières.
Mais le problème, c'est que les éducateurs, et tu as raison d'angler là-dessus, mais les éducateurs, justement, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les éducateurs sont confrontés au problème que je te décris, c'est-à-dire que les parents aujourd'hui de la nouvelle génération, c'était pas comme ça à l'époque, veulent que leur gamin soit titulaire, veulent intervenir sur les décisions arbitrales, veulent intervenir sur l'avenir de leur enfant. Et en fait, c'est la génération aujourd'hui, 2022. Il y a un super livre qui est sorti.
Comme s'ils avaient le ticket d'or million, c'est ça.
Les enjeux du football français de Yacine Hamnet qui explique tout ça. Et vraiment, c'est aussi ce que je disais, un souci générationnel, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, l'avènement de l'argent et l'avènement du tout le monde peut s'exprimer, eh bien, ça amène des familles et des environnements, on le voit d'ailleurs en ce moment avec l'actualité, très néfastes aux joueurs et aux nouvelles générations.
Très rapidement, Jérôme Papin.
Ça va être très rapide par rapport au témoignage apporté par Cédric et la déclaration, donc si j'ai bien tout suivi, du joueur polonais. Je rappelle juste que si ce type de propos a été tenu, il y a des personnes, dont une qui a été sanctionnée pour des propos, parce que c'est du racisme, on est bien d'accord, à partir du moment où vous parlez de pays non civilisés, etc., qui ont été sanctionnés pour des propos à l'identique envers Kylian Mbappé. Donc ça veut dire que si ces propos ont été tenus, ces propos doivent être sanctionnés.
On va évidemment suivre ce qui va se passer. On va aussi parler de la Coupe du Monde, un peu du terrain aussi, parce qu'en foot, on parle assez peu de terrain en ce moment, mais là, on va en parler. On va s'intéresser à Antoine Griezmann dans Europe 1 Sport. Quel grisou verra-t-on au Qatar? À tout de suite.